They don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达达加正忙
着。Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires de Libération. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
On va parler ce matin de l'Iran. Le 26 février dernier, les Iraniennes et les Iraniens sont rendus aux urnes pour élire leur parlement, leur assemblée des experts, ces élections ont vu la victoire du camp des réformateurs face à celui des ultra-conservateurs, une progression du bloc centriste particulièrement spectaculaire à Téhéran, puisque les candidats d'Hassan Rouhani y ont remporté tous les sièges. Mais si les modérés rassemblés derrière le président ont renforcé leur présence au Majlis, ils n'ont pas obtenu la majorité des 290 sièges en jeu, et on peut dès lors se demander ce que sera leur marge de manœuvre, quelle sera la volonté réformatrice du prochain Parlement. Le président Rouhani aura-t-il la légitimité et les moyens de poursuivre sur le chemin de l'ouverture, avec quels effets sur le plan intérieur, mais aussi en matière de politique étrangère? Est-ce qu'il aura les coups des franges pour relever les défis, notamment les défis économiques qui l'attendent d'ici la fin de son mandat? Voilà les questions auxquelles on s'intéressera dans quelques instants. Avec deux invités d'ores et déjà autour de cette table. D'abord, Azadeh Kian, bonjour.
Bonjour.
Sociologue, professeur à l'université Paris 7 Diderot. Et puis Clémentin, bonjour.
Bonjour.
Chercheur associé à l'IREMO, l'Institut de recherche sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Avant de vous retrouver autour de ce thème iranien, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'Association des prix Albert Londres. La journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient du Kurdistan.
Nous étions dans le Kandil quand on nous a informé que Daesh était entré dans Sinjar. Nous nous sommes rassemblés dans une zone proche et nous avons ouvert un corridor pour sécuriser le passage de la population en fuite. Certains fuyaient en voiture, d'autres à pied. Ils étaient affamés, assoiffés. Les mères ne savaient plus quoi faire. Malheureusement, beaucoup de gens sont morts de soif. Et nous, nous étions heureuses et fières de pouvoir venir libérer notre peuple yézidi.
Voilà, l'une de ces combattantes qui se sont battues pendant des semaines à Kobané jusqu'au départ des djihadistes. Bonjour Mylène Soloy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, documentariste. C'est un extrait d'un documentaire qui sera diffusé très bientôt sur Arte. Kurdistan, la guerre des filles. Ça sera le 8 mars, journée internationale des femmes. De Kobané en Syrie, au Sinjar en Irak, en passant par le Kurdistan turc, votre documentaire est une immersion dans le mouvement des femmes kurdes luttant aujourd'hui contre Daesh. On va essayer d'en comprendre peut-être les racines historiques, social, culturel. L'année dernière, lors du siège de Kobané, le monde entier découvrait ces femmes kurdes qui combattaient en première ligne contre les djihadistes de Daesh. Aujourd'hui, elles sont toujours au front. Pourquoi est-ce que vous avez voulu remettre ces combattantes sous le feu des projecteurs? Une manière de rappeler justement que dans le quotidien des combats, elles sont toujours au front.
C'était surtout pour... Parce que il y a eu une image qui est devenue emblématique de Kobané, de ces jeunes femmes très jolies, très souriantes, avec leur drapeau, leur treillis, qui venaient de vaincre Daesh, de sortir Daesh de Kobané, alors que personne jusque-là n'avait marqué de victoire sérieuse militaire contre Daesh. Et il y a eu un engouement médiatique et compréhensible. C'était pas banal de voir ces jeunes nanas au front comme ça vaincre cette barbarie. Je voudrais juste dire quand même que c'est très compliqué de se battre contre des gens qui cherchent la mort. Ça a changé un peu la donne sur le terrain. Avant, les généraux protégeaient un peu leurs troupes et allaient au combat pour essayer d'économiser leurs hommes. Daesh va à la mort tranquillement. C'est quand même beaucoup plus compliqué à combattre sur le terrain, ça. Et donc, il y a eu une image très belle de toutes ces femmes qui, moi aussi, m'a séduite. Et moi, ça m'a renvoyé la victoire de Kobané à 2 ans plus tôt, la mort de militantes kurdes à Paris, de 3 militantes assassinées à Paris. Alors, j'en ai une qui était une copine, enfin une copine que je connaissais bien dans les milieux militants kurdes. Et donc moi, j'ai eu envie de revenir en arrière et de dire c'est pas sorti comme ça de nulle part.
Cette femme qui arrive, femme existe depuis longtemps.
Voilà, ce mouvement existe et surtout c'est pas un mouvement militaire, c'est un projet politique, social, c'est un projet de femme, c'est pas juste un mouvement militaire.
Alors justement, Mylène Sollois, pour comprendre tout ça, il faut revenir peut-être à l'hiver 2013, cette militante kurde assassinée à Paris, Sakine. C'est un événement qui avait provoqué des manifestations un petit peu partout dans les communautés kurdes, ici en France, mais aussi bien sûr en Turquie, dans le Kurdistan turc. Vous nous racontez un petit peu le parcours de cette figure importante, importante parce que déjà c'est l'une des figures fondatrices du PKK, mais aussi parce que c'est devenu une icône du mouvement féministe kurde.
Mais oui, elles sont assassinées à Paris, elles sont 3, l'une est une militante politique qui fait du lobbyisme politique auprès des institutions européennes, Rojbin, qui était celle que je connaissais bien. Une deuxième est une jeune kurde allemande, il y en a une qui est française et une qui est allemande, française de nationalité, hein, qui sont vraiment à l'image de ce que sont ces femmes combattantes. Et donc c'est une jeune qui rêve, une jeune allemande kurde, qui rêve de monter au front, comme beaucoup de ces jeunes femmes. Et la troisième, Sakine Çansız, qui est donc cofondatrice du PKK avec Abdullah Öcalan. Il y avait 2 femmes à la fondation du PKK, c'est vachement intéressant. Ces 2 femmes viennent
d'une région... 2 femmes de Dersim.
Voilà, elles viennent de Dersim, de cette région très particulière qui est une région alévie, donc un culte des croyances pré-islamiques, évidemment, et qui résistent, enfin qui prônent une laïcité, une égalité homme-femme, qui sont une autre manière de vivre, qui sont pas une religion, mais justement un ensemble de croyances et une culture. Et donc elles viennent de là, ces femmes, et elles imprègnent à la fondation du PKK, elles imprègnent cet esprit de d'égalité homme-femme, où on parle même pas comme ça. Ici, on parle encore de quotas, ce qui est quand même aberrant dans une société comme la nôtre. Ben là-bas, on parle simplement, c'est pareil d'être un homme ou une femme, et on se pose pas les questions en ces termes. Donc, Sakine vient de là, et donc, j'ai voulu refaire marche arrière sur cette histoire, retrouver pourquoi dans le PKK, qui a été quand même une organisation un peu staliniste, faut bien le dire, enfin, marxiste-léniniste dur et pur, qui ne l'est plus aujourd'hui, qui a changé quand même. Si, qui a changé, je vois. Marx est beau se moquer de moi. Mais, non, ça a bien changé. Comment?
Marx est beau?
Non, tous les trois.
Non, mais ça a changé. Il faut aller à l'intérieur. Bah, je sais pas. Moi, j'ai fait pas mal de reportages depuis longtemps à l'intérieur. Ça a beaucoup changé. En tout cas, comment cette organisation très 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 verticale, avec un leader omniprésent qui est presque une figure de gourou, qui nous gêne beaucoup en Europe, Öcalan, la figure de Öcalan qui est quand même...
Voilà, qui est toujours derrière les barreaux, rappelons-le pour les auditeurs, dans cette prison au large d'Istanbul.
Ouais, sur une île à Imrali, depuis 99, absolument. Et donc, comment cette organisation a un truc très différent de plein d'autres organisations. Moi, je veux vous dire, j'ai vécu 20 ans en Amérique latine, j'ai fait plein de trucs, plein de films sur les guérillas, et je vous assure que dans le PKK, il y a une présence des femmes qui est pas banale, quoi, qui est une vraie présence.
Comment cette femme est devenue l'icône de la résistance qu'elle est devenue? C'est notamment, je crois qu'il y a son passage en prison qui va beaucoup façonner cette figure.
Sakine est une militante ouvrière, elle cofonde le PKK avec Öcalan et plein d'autres universitaires à l'époque, en 78, et puis elle tombe assez vite, elle est emprisonnée avant le coup d'État en Turquie, avant 80, et en prison, elle va être d'abord dans une première prison, puis à Diyarbakir. Le niveau de violence exercé contre les prisonniers à Diyarbakir dépasse l'entendement, et ça devient une des prisons les plus violentes au monde, où on pratique les tortures les plus épouvantables au monde, et Sakine dans cette prison, où le viol est une vraie arme de guerre, qui a toujours été, l'armée turque a toujours violé massivement, il y a eu toujours depuis Dersim 38, depuis les massacres kurdes. Et donc en prison, le viol est massif, mais la violence en général, les tortures sont massives. Et Sakine se détache au sein de la prison comme une figure qui va faire de ces femmes qui, à Dersim, à l'époque des grandes répressions, se jetaient des falaises pour échapper au viol, se jetaient dans le fleuve Mounsour pour échapper au viol. Elle reprend ça et elle transforme ces femmes en des résistances.
En des combattantes.
Et la résistance à l'intérieur de la prison de Diyarbakir est remarquable. C'est le début du grand mouvement de résistance kurde.
Alors justement, essayons de comprendre comment il va prendre forme. Elle sort de prison, elle rencontre notamment Leyla Zana, qui est cette femme politique qui avait osé au Parlement turc prononcer des mots en kurde, ce qui lui avait valu...
Première femme députée élue au Parlement.
Ce qui lui avait valu un séjour en prison.
10 années.
C'est ce qui va aboutir finalement à la création d'une véritable armée de femmes. Il y a cette association de femmes patriotiques, et puis cette armée, ces unités de femmes libres, qui vont se regrouper dans un camp à Kandil, où elles vont vivre quasiment en autarcie. Nous raconter un peu comment se passe la vie dans ce camp.
Ouais, bon, moi je suis arrivé par hasard. Hein. J'étais parti faire un reportage pour Arte sur le repli que devenaient les forces repliées du PKK qui s'étaient donc repliées dans le nord de l'Irak après l'arrestation de Öcalan. Et par hasard, on m'emmène dans un camp de femmes. Et je vous avoue que j'étais ahuri de voir des centaines de femmes qui construisaient des villages en terre, en pleine montagne, qui avaient mis en place une académie de formation, une formation politique, qui avaient mis
un
en place...
Un centre de rééducation des hommes.
Absolument, une académie de rééducation des hommes, où ils sont volontaires, où ils se portent candidats à être rééduqués. Et ça a été très étonnant, parce que elles se donnaient un espace, un temps, pour réfléchir d'un point de vue de femme, en recouvrant une autonomie qu'elles n'ont jamais, même dans des organisations comme le PKK, où les femmes ont une certaine place, mais où elles n'arrivaient pas à être elles-mêmes complètement. Et c'est quand du Kandil, c'est quand même un moment de l'histoire de ce mouvement de femmes très étonnant, parce que c'est des centaines de femmes ensemble qui réfléchissent le monde d'un point de vue de femme. Et l'académie de rééducation, c'est simplement des cours de politique et d'histoire d'un point de vue de femme. C'est simplement repenser. D'ailleurs, moi, je trouve qu'il y a une des plus belles phrases du film, curieusement, c'est un homme qui l'a dit, un homme rééduqué, qui dit dans cette académie, le plus important de ce qu'on a fait, c'est pas tant de réfléchir les rapports hommes-femmes, mais de comprendre comment l'homme rend le monde invivable. Je trouve ça très beau.
Alors au départ, ces femmes dans ce camp, elles combattent essentiellement l'armée turque, qui régulièrement attaque le camp, et puis ensuite arrive Daesh. Donc on vous emmène sur les positions des unités des femmes libres durant la bataille de Sinjar. Elles vous racontent la confrontation avec les hommes de Daesh. On a les témoignages des femmes de la région, notamment les yézidis, dont certaines sont encore derrière dans leurs mains. Les témoignages sont absolument terribles. On sait que le prix payé a été extrêmement fort pour cette libération de Sinjar, un prix payé essentiellement par les femmes, en tout cas entre autres. Et puis, on comprend que beaucoup de ces femmes yézidis sont réunies là aussi en unité armée sous l'autorité. Alors, je ne sais pas s'il faut dire sous l'autorité, mais en tout cas, elles sont entraînées par ces femmes, justement, de ce fameux camp de Kandil.
Oui, absolument. Absolument. C'est intéressant, les yézidis, parce que nous, on est arrivés 2 jours après la libération de Sinjar. Donc, par la coalition, puis les forces kurdes. Et le témoignage que vous avez passé, donc, c'est ce moment-là. On arrive 2-3 jours après. Il y a encore des corps, des types de Daesh dans les décombres. J'aurais quand même faire un aparté là-dessus, parce que, elles sont restées un an, ces unités de femmes, qui s'appellent les Yejastars, les unités de femmes libstars du Kandil. Elles ont passé un an à combattre à l'intérieur de Sinjar. Elles étaient au coude à coude avec les types de Daesh. D'ailleurs, elles racontent qu'ils s'entendent de parler. C'est souvent dans les guerre qu'on entend ça. Hein. Les gens s'entendent d'un front l'autre quand la ligne de front est ténue comme ça et les forces sont très proches les unes des autres. Ils s'entendent discuter, ils se voient presque. Et elles passent un an là-dedans. Et d'ailleurs, Miss Guin, quand on est arrivé, nous a dit qu'est-ce qu'on va devenir maintenant qu'ils sont partis? On va être largués. C'était nos ennemis, on savait ce qu'on faisait. Bref, en tout cas, je veux juste faire un aparté sur cette ville parce que... vous avez vu les images, il ne reste rien de Sinjar. D'ailleurs, quelqu'un le dit, un vieux cheikh le dit dans le film. Oui, Sinjar est libéré, mais Sinjar est un tas de ruines. Et c'est un peu l'image que donne l'action de la coalition dans la région, c'est de raser des villes. Alep est en train d'être... bientôt dans ce cas-là, Raqqa y est passé. C'est de raser les villes, qui une espèce de surenchère de la violence
par rapport à... Oui, en même temps, sans l'aide de la coalition, elles auraient peut-être pas repris ces positions.
Sûrement, mais est-ce que c'est ça...
D'ailleurs, elles le disent.
Ah oui, c'est sûr. Ben, elles le disent. Elles le disent tout le long du film, qu'elles sont... La coalition bombarde, et puis elles arrivent, et elles reprennent le terrain. Elles font le boulot sur le terrain que ne font pas les forces de la coalition. Mais c'est quand même extrêmement choquant à voir.
Alors,
extrêmement.
Mylène Seloy, certaines de ces femmes yézidis se retrouvent dans un camp, le camp de Nehiroz, grâce au corridor, un corridor qui a été mis en place justement par ces mouvements de femmes libres. Et visiblement, ce qui est intéressant, c'est qu'elles refusent, ces femmes, l'autorité de Massoud Barzani, qui est le président du gouvernement régional du Kurdistan. Pourquoi ?
Alors, quand Daesh...
Et elles le font savoir.
Elles le font savoir, elles hurlent, elles les traitent de chiens et de vendus.
Absolument.
C'est extrêmement virulent et violent, leur véhément, leur manière de dire. Alors, il faut savoir que Daesh a pris Mossoul, qui était quand même une énorme ville. Hein. C'est pas une petite prise de guerre, c'est une énorme ville. Et puis Daesh a avancé, a continué à avancer. Les yézidis étaient dans la ligne de mire depuis longtemps parce que les islamistes du Répur les considèrent comme des adorateurs du diable et des doubles mécréants. C'est pas juste des mécréants, c'est des gens à supprimer, qu'on ne peut même pas convertir. Et donc, on savait qu'ils avançaient vers Sinjar. Et les Peshmergas de Massoud Barzani, qui est donc le président de ce gouvernement régional du Kurdistan d'Irak, du Nord-Irak, ont prévenu la population que Sinjar allait être attaquée. Ils ont pris position. Et puis, quand Daesh est arrivé, ils sont partis. Et je pense que tout le monde sait ce qui s'est passé à Sinjar. Des centaines, des milliers de femmes ont été violées. Des milliers de gens ont été raflés. Des enfants qui sont dans des écoles coraniques maintenant. Les femmes qui ont été converties en esclaves sexuels et qui sont vendues sur les marchés. Et je vous jure que c'est pas un truc des médias, hein. c'est une réalité, c'est quelque chose. Elles sont encore dans les mains de Daesh, dans plein d'endroits. Et donc les femmes yézidis ont été abandonnées par les Peshmergas. Elles se sentaient abandonnées. Ensuite, la fuite de Sinjar a été épouvantable. Tout le monde est parti et elles se sont senties abandonnées par leurs hommes. Et brusquement, il y a une espèce de contrat qui a été rompu. Je pense que dans toutes les sociétés traditionnelles, dans les nôtres aussi, mais ça se voit moins, il y a une espèce de contrat qui fait que l'homme protège et ramène l'argent, en échange de quoi la femme nourrit et s'occupe des enfants et sert l'homme. Quelque chose comme ça. Et le contrat est rompu, là, parce que les hommes ne les ont pas défendus, qu'ils ne les ont pas protégés, elles se sont retrouvées... Je pense que les yézidis en ont bavé plus que toutes les femmes de la région. Et elles rompent le contrat, et donc elles rejettent Barzani, elles rejettent les Peshmergas, elles rejettent aussi l'autorité de leurs hommes. Et ce moment où Azadeh, votre invité, disait tout à l'heure que ça l'intéressait pas beaucoup, l'idée d'un mouvement en armes, mais c'est un mouvement d'autodéfense. Une fois qu'elles prennent les armes, ces femmes, en refusant qu'on les viole, qu'on les utilise comme ça... Et ben, elles se disent, alors maintenant, on revoit tout. À partir de maintenant, où moi, je peux me défendre physiquement, à partir de maintenant, on peut rediscuter le reste. Et le reste, c'est la société.
Toute dernière question, peut-être en guise de conclusion, Mylène Seloy, parce qu'on comprend dans ces mouvements, dans ce mouvement féministe de kurde, ce qui se joue, c'est pas seulement la question kurde, c'est un enjeu plus global d'émancipation des femmes, c'est un projet politique, vous le disiez tout à l'heure, d'ensemble qu'il y a derrière tout ça. La question des droits des femmes, elle a été justement l'un des piliers d'un parti qui a émergé ces derniers mois en Turquie, le HDP, parti pro-kurde, mais qui en réalité a élargi assez largement sa base, qui a connu un succès politique assez important l'année dernière. Alors, j'ai plus en tête le score exact du HDP.
12%,
j'allais dire 15%.
13%. À la première élection.
En juin dernier. Mais comment ces femmes kurdes, justement, qui défendent cette cause féminine depuis des années, elles, perçoivent-elles, justement, l'émergence de cette force politique pour qui la question féminine est un enjeu central, justement?
Le Kurdistan de Turquie, le HDP ont bien des leçons à nous donner parce que c'est une parité absolue. Il y a des coprésidences dans toutes les mairies, dans toutes les instances et politiques internes et administratives. Hein, et c'est ce modèle qui est reproduit aujourd'hui au Rojava, donc dans le Kurdistan de Turquie, où il y a une expérience unique qui est en train de se vivre de parité réelle. Dans les forces militaires, il faut quand même le dire, hein, 45% sont des femmes, donc ce qui lutte aujourd'hui contre Daesh, mais en termes, disons, politico-administratifs, c'est une parité absolue de gestion qui vient du modèle, effectivement, kurde et HDP, hein, du HDP qui a été élargi. Et je veux dire qu'elles disent, les femmes, on le voit un peu, mais moi, je ne l'ai pas suffisamment vu, mais enfin, elles le disent, et je les crois, que maintenant, il y a 10 à 15% de femmes arabes dans les forces, qui est nouveau. Il y a des chrétiennes qui sont rentrées, et puis il y a des femmes athées, ça existe aussi, hein, qui sont rentrées dans ces forces et qui défendent un projet de société où on est dans une inclusion multiconfessionnelle, pluriethnique et une égalité de genre, ce qui n'est pas banal aujourd'hui, surtout au Moyen-Orient, non ?
Merci beaucoup, Mylène Seloa, d'être passée dans nos studios. Je rappelle votre documentaire qu'on pourra voir le 8 mars prochain, c'est mardi ?
Oui, mardi, 22h35 sur Arte.
Journée internationale des femmes, 22h35. Merci beaucoup,
merci
Mylène
vous.
Seloa.
بساج لزياتي بريم كتاب باري
بكمنا. Allez, on va rester dans la région, hein, puisqu'il y a aussi des Kurdes du côté de l'Iran qui va nous intéresser à présent. Les élections législatives de vendredi dernier ont vu la victoire, je le disais, des modérés qui soutiennent le président Rouhani. Ils affichent une nette progression dans un majlis jusqu'ici dominé par les conservateurs. L'alliance Espoir, Sérénité, Prospérité économique conclue avec les conservateurs modérés a permis aux réformateurs d'obtenir 91 sièges. Elle a même remporté la totalité des sièges sur la capitale Téhéran, un succès symbolique qui devrait permettre peut-être au président Rouhani de poursuivre sur la voie des réformes et de l'ouverture. Mais que doit-on en attendre justement ? Ces réformes peuvent-elles dépasser le seul champ économique ? Elles avancent aussi sur le plan de la politique interne, sur le plan de la politique étrangère ? On va essayer de s'interroger là-dessus. Quelle marge finalement de manœuvre pour le camp réformateur ? C'est maintenant ce qu'on va essayer de comprendre avec Azadeh Kian, Clément Terme et Marc Semo de Libération. Marc, la presse internationale a salué en début de semaine cette avancée des réformateurs. Il faudrait peut-être quand même nuancer les choses. D'abord parce qu'il y a un second tour, qu'il y a encore beaucoup de sièges, je crois une cinquantaine qui sont encore en ballotage. On a une liste aussi du camp Rouhani qui n'est pas toujours aussi homogène qu'on pourrait l'espérer. Donc, est-ce qu'on va pouvoir faire passer des lois ? C'est pas évident. Donc oui, bien sûr, c'est un coup de force des réformateurs, mais c'est pas garanti qu'ils se traduisent ensuite du point de vue politique, Marc. Hein.
Mais je crois d'abord qu'il faut éviter un peu les confusions.
Oui.
Et là, je parle, après avoir beaucoup lu les papiers de Jean-Pierre Perrin, qui était là-bas.
Qui était en Iran, absolument.
Qui était en Iran. Il ne faut pas confondre les modérés et les réformateurs.
Oui.
Alors, la première vraie leçon, je pense, de ce scrutin, c'est l'extraordinaire mobilisation de cette partie de la société civile qui veut le changement, hein, qui veut l'ouverture, qui veut aller de l'avant, qui veut les réformes économiques et qui soutient Hassan Rouhani. En même temps, ce scrutin pouvait sembler au début joué d'avance parce que justement, la quasi-totalité des réformateurs avait été exclue des listes par le Conseil des gardiens de la Constitution. Quelques-uns ont été repêchés, mais c'était les plus mous, les plus fades, voire ceux qui, parce qu'ils étaient repêchés, étaient tenus. En revanche, les gens qui voulaient bouger, ces partisans du changement, ont voté pour des modérés, des conservateurs pragmatiques, des réformateurs contrariés. Donc ce qui fait qu'il y a effectivement une réelle poussée au Parlement des modérés et des partisans de Rouhani. Hein, et c'est vrai qu'à Téhéran, il y a eu...
Les partisans de Rouhani qui seraient les pragmatiques, justement.
Qui seraient des pragmatiques.
Parce qu'il y a un peu cette nouvelle grille de lecture
voilà,
qui apparaît.
Mais qui ne sont pas les réformateurs. Ouais, les réformateurs ont été mis, la plupart, mis hors jeu. Hein. Ensuite, il y a effectivement, comme tu le disais, la question de la province, où pour le moment, on n'a pas encore tous les résultats. Il y aura 50 sièges au deuxième tour, où là, malgré tout, il y a quand même une présence assez forte des conservateurs. Ensuite, ce qui est très important, c'est que pour l'Assemblée des experts, les 98 membres qui auront pour charge de d'élire le nouveau guide, hein, Khamenei étant malade, apparemment un cancer de la prostate, là aussi, les modérés, voire les réformateurs, dont Rafsanjani, ont fait une percée. Et les plus durs ont été exclus. Ensuite, ce qui est sûr, c'est que ça sera long. C'est que ce sera compliqué. Et un des vrais tests maintenant, et je finirai là-dessus, c'est la donne régionale. Parce que jusqu'ici, l'Iran a été le parrain et financier et militaire du régime de Bachar el-Assad. Est-ce que maintenant, l'Iran va jouer le jeu d'une solution négociée avec les Russes, ou est-ce qu'au contraire, ils vont continuer dans le jusqu'au boutisme ? Alors, ce qu'on peut voir, ce qui est peut-être un signe encourageant, c'est Qassem Soleimani, qui est le général des gardiens de la Révolution, l'homme de toutes les opérations extérieures de l'Iran, soutient apparemment, non pas les réformateurs, mais disons, les pragmatiques. Notamment, il a donné un soutien appuyé à Ali Larijani, qui était un des grands maîtres d'œuvre des négociations avant sur le nucléaire et qui soutient lui-même Hassan Rouhani.
Alors, Azadeh Kian, on va commencer. Peut-être une première réaction sur ce scrutin, avec peut-être cette nuance à faire entre modéré et réformateur. On parlerait plutôt de pragmatique. Votre regard sur ces élections.
Moi, je pense que ces élections ont montré avant tout la victoire des réformistes, et notamment le président Khatami, qui est très populaire en Iran et qui a appelé à soutenir la liste justement des modérés réformistes conservateurs à Téhéran, qui a été très bien suivie. Les électeurs de Rouhani, on le sait déjà en juin 2013, sont en bonne partie, dans leur majorité écrasante, les partisans de Mouvement Vert, hein, c'est-à-dire Mouvement Vert de 2009 qui a été réprimé, mais des jeunes et des femmes qui sont des partisans de ce mouvement se sont massivement aussi mobilisés. On les a même vus dans, à maintes reprises à Téhéran, alors qu'ils votaient, ils donnaient aussi des slogans allant dans le sens justement de revendication de Mouvement Vert ou la libération des chefs de Mouvement Vert qui sont toujours en résidence surveillée.
Oui, mais on trouve aussi sur cette liste justement de soutien à Rouhani. Alors, je vous laisse poursuivre.
Oui, mais en même temps, étant donné que, comme ça a été dit, là, 99% des réformistes à travers le pays avaient été disqualifiés par le Conseil des gardiens, il fallait soit boycotter les élections, soit essayer d'y participer et de gagner malgré tout. Et c'est précisément ce que les réformistes et les modérés pro-Rouhani ont réussi à faire en faisant une liste commune à Téhéran avec des conservateurs qui avaient soutenu néanmoins le président Rouhani dès le départ. Je ne vais pas les nommer parce que leurs noms ne diront rien à ceux qui nous écoutent, mais ça, c'était une stratégie qui l'a remportée haut la main. Je voudrais donc aussi dire que la République islamique a deux composantes, hein, la composante républicaine et la composante théocratique. Et on a bien vu que les électeurs ont vraiment utiliser la composante élective pour dire leur désaccord avec la composante autocratique de ce régime. Ce vote et cette volonté est à la fois valable pour le Parlement que pour l'Assemblée des experts qui élit le guide et le destitue. Mmh. Autre chose, contrairement à ce qui se dit, d'ores et déjà, les réformistes ont remporté la majorité, c'est-à-dire un vote plus important au Parlement. Et si vous regardez les 60 indépendants qui restent en ballotage dans les provinces, ce sont surtout des indépendants plutôt modérés, voire pro-réformistes plutôt que pro-conservateurs, puisque quand on les connaît certains et certaines, donc ce qui me laisse entendre, me laisse effectivement dire que le prochain Parlement sera un Parlement vraiment dans sa grande majorité modéré qui est susceptible de soutenir le président Rouhani et surtout sa politique d'ouverture et effectivement sa politique économique avant tout.
On va y venir, on va essayer de détailler un petit peu les choses. Clément Terme, peut-être une première réaction un peu générale sur le scrutin et puis en particulier sur l'Assemblée des experts, parce qu'il y avait aussi cette mission qui consiste à renouveler les membres de l'Assemblée des experts qui vont avoir la charge, Marc Semo le disait tout à l'heure, de nommer le successeur du guide suprême ou alors le collège de successeurs, on verra, là ça sera peut-être une petite révolution mais on va en parler. Ces membres, ils sont élus pour 8 ans, donc a priori, ils vont devoir être confrontés à ça. Hein. Votre regard sur cette élection de l'Assemblée des experts, est-ce qu'il vous semble indiquer un nouveau rapport de force entre réformateurs, ou alors disons pragmatiques, et conservateurs ?
Je pense que c'est surtout une victoire pour l'ayatollah Rafsanjani, qui avait subi plusieurs défaites auparavant, notamment pendant la période Ahmadinejad, qui avait beaucoup souffert des scrutins précédents, et notamment de l'élection précédente à l'Assemblée des experts. C'est aussi une défaite pour l'ayatollah Mesbah Yazdi, qui était le mentor de Mahmoud Ahmadinejad, le président conservateur de 2005 à 2013. Et donc là, on tourne la page Ahmadinejad. Ça, c'est vraiment très très clair. Mais Ahmadinejad représentait un courant très particulier dans les élites de la République islamique. C'était une révolution dans la révolution. Et je pense que les conservateurs pragmatiques ont fait alliance aussi avec ce qu'on appelle les réformateurs, que je qualifierais de modérés quand même, parce que les réformateurs radicaux ont vraiment été exclus, ceux qui veulent un vrai changement. Donc là, il y a quand même une évolution positive qui est plutôt un retour aux années 90, où on a une théocratie plus participative.
Ouais, une théocratie plus inclusive.
Plus inclusive, voilà, où on va faire plus participer la population, parce qu'on s'est aperçu en 2009 aussi que si on va vraiment à l'encontre des désirs et des demandes de l'opinion publique, il y a un risque aussi pour la pérennité du système.
Et alors, est-ce que Clément Terme, la porte est ouverte pour l'option qui consisterait à remplacer l'actuel guide par un collège de religieux, qui est une option qui est sur la table?
Je pense que de toute façon, la futurologie, s'agissant de la République islamique, est vouée à l'échec. La seule certitude, c'est la surprise, parce que tout à l'heure, Marc Semo a dit ces élections qui semblaient jouées d'avance. Ça, c'est un poncif des médias occidentaux à chaque élection. Si vous lisez la presse avant les élections de Rouhani en 2013, vous serez surpris. Les élections verrouillées, les titres, vous reprenez les titres systématiquement. Et comme le système n'est pas démocratique, il a besoin de la surprise. Donc là aussi, cette histoire du prochain guide. Déjà, le premier point, c'est que les ayatollahs vivent très âgés. Donc ne nous
même malade.
Il ne faut pas se précipiter. Il y a beaucoup de rumeurs sur... Il faut se méfier des rumeurs, des informations sur la santé des chefs d'État qui alimentent les fantasmes, pas seulement en Iran, dans tous les pays, on l'a vu, à d'autres endroits. Donc je pense qu'il faut rester très prudent et que l'évolution de la République islamique va se jouer sur deux niveaux. Est-ce que l'ouverture économique, l'ouverture au capitalisme mondialisé, donc ce que veut le président Rouhani, l'entrée dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, est-ce qu'on va pouvoir préserver la spécificité du système en développant l'économie iranienne sur un plan libéral? Donc je pense que la recomposition en cours au sein du système politique de la République islamique se fait sur la variable économique. Et c'est ça qui est important. Parce que déjà à l'époque, la division entre réformateurs et conservateurs ne s'appliquait pas à l'économie. On avait des libéraux et des étatistes des deux côtés. Donc là, il y a vraiment, je pense, un consensus entre les deux parties pour dire il faut libéraliser l'économie, il faut vraiment rentrer dans un système capitaliste et s'intégrer dans la globalisation économique mondiale.
On va en revenir sur les conséquences économiques possibles de cette élection, mais je reprends la question de Marc Semo, à savoir qu'est-ce qu'on peut attendre en matière d'évolution sur les grands dossiers de politique étrangère et notamment évidemment sur le dossier de la Syrie, Clément Terme et Azadekian. Clément Terme.
D'accord. Donc, mais sur l'agenda économique, je dirais que il y a ce
politique
consensus.
Étrangère.
Oui. C'est la politique étrangère, l'agenda économique. Parce que c'est comme la diplomatie économique de l'Iran. Rouhani, c'est le diplomate économique de l'Iran. Ensuite, sur la Syrie, je pense, et sur le Moyen-Orient, je pense que là, c'est une question qui est différente. Parce que c'est le changement de perception de l'Occident qu'il faut prendre en compte. Et donc, la République islamique joue sur ça, sur l'ennemi prioritaire qu'est Daesh. Donc, le soutien en Syrie, c'est pas le soutien au régime de Bachar al-Assad qui est mis en avant ici par un groupe de chercheurs. Mais je pense que c'est pas la priorité désormais. L'Iran, comme la France, a pour priorité la lutte contre Daesh. Et ça, c'est très clair, parce que l'ennemi de Daesh, c'est le chiisme. Et c'est cette minorité au sein de l'islam. Et là, il y a une convergence avec l'Occident. Donc, je pense que le président Rouhani, qui sort renforcé de ces élections, va utiliser ce phénomène Daesh pour se rapprocher de l'Occident.
Azadekian.
Écoutez, le président Rouhani, dès son élection en juin 2013, avait haut et fort et devant un parterre de Pastaran, avec le guide, avait annoncé qu'il n'était pas d'accord avec l'implication militaire de l'Iran dans la guerre en Syrie et qu'il était juste d'accord pour envoyer l'aide humanitaire aux Syriens. C'était vraiment clair et net. Depuis, effectivement, les généraux des gardiens de la révolution, en particulier le général Soleimani et l'armée Al-Rots, la branche extérieure des Pastaran, qui ont vraiment la main sur l'implication de la République islamique dans les conflits de la région, à la fois en Syrie et en Irak, ont voulu effectivement impliquer l'Iran. Maintenant, on constate de plus en plus que du fait du coût très élevé, à la fois humain, puisque plusieurs centaines ou dizaines plutôt des hauts gradés des gardiens de la révolution qui étaient en Syrie se sont tués sur le front et que aussi l'Iran a une situation économique très difficile. Or, le régime islamique a aidé à raison de plusieurs milliards de dollars d'aide à la Syrie. Tout ça sont maintenant contestés de plus en plus par la population, par la société civile iranienne. Et donc, Rouhani prend en compte ces contestations. Ce qu'on a pu voir effectivement récemment, il y a une semaine de ça, avant les élections, le chef des gardiens de la révolution a déclaré que l'Iran n'enverrait plus de gardiens sur le sol syrien, et même, vous savez, pour justifier la présence des gardiens de la révolution en Syrie, ils disent pas qu'ils sont des combattants ni que c'est des conseillers, mais plutôt des gardiens des lieux saints du chiisme, en particulier Hazrat Zainab, la sœur d'Imam Hussein, le mythe central du chiisme, qui est enterrée en Syrie. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en train de justifier leur présence en Syrie auprès de la population. Et donc, maintenant, je pense que l'Iran, vous savez, pour la première fois, a été invité à la conférence sur la Syrie après l'accord sur le nucléaire, et ce qui fait que depuis, les Iraniens se laissent effectivement persuader qu'il faut laisser les Syriens décider, et donc il faut aller pour une solution diplomatique et s'impliquer de moins en moins sur le sol syrien. Le seul bémol ici, c'est qu'ils n'accepteraient pas qu'un gouvernement pro-saoudien remplace Bachar al-Assad. Et je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a énormément de tensions entre l'Arabie saoudite et l'Iran actuellement dans la région, et son implication sur le sol syrien, ben, on le voit. Maintenant, il revient aux puissances occidentales et mondiales, plus la Russie bien évidemment, de trouver une solution pour que le régime de Bachar ne soit pas effectivement ce que les Iraniens n'accepteraient pas, un régime, voire un président pro-saoudien en Syrie.
Marc Semo.
Mais pour le moment, les Iraniens sont quand même sur le terrain. Le Hezbollah, aucune des avancées de ces dernières semaines n'aurait été possible de reconquête de la part du régime sans les Iraniens et le Hezbollah. Alors, une question, est-ce que, par exemple, le régime, alors, ok, n'accepterait pas un gouvernement pro-saoudien à Damas, mais est-ce que le régime tient à garder Bachar al-Assad ?
Non, pas du tout. C'est ce que je suis en train de vous dire. Le régime iranien ne tient pas à garder Bachar al-Assad.
Ils ont une solution de remplacement ?
Oui, quelqu'un de ce régime, mais qui ne soit pas Bachar. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'ils souhaitent garder, maintenir le régime, mais sans Bachar. Et je vous rappelle que il y a 3 ans...
Le profil existe ?
Il parle de quelqu'un, mais bon, je ne peux pas m'avancer plus que ça. Mais déjà en 2013, ils avaient invité la famille de Bachar al-Assad à aller s'installer en Iran. Hein, le gouvernement iranien avait invité la famille de Bachar, qui était une façon de dire, bon, Bachar partira et doit partir, donc on veut bien l'accueillir sur le sol iranien, si vous voulez. Bien sûr, Bachar al-Assad n'avait pas accepté. Mais aujourd'hui, effectivement, comme ça a été dit, comme l'ennemi principal de tout le monde est Daesh, il y a cette occasion de négocier. Le départ de Bachar n'est plus prévu pour demain, mais plutôt pour après-demain. Et donc, ça laisse le temps aux Iraniens de négocier entre eux, puisque c'est un régime factionnel, l'Iran. Hein. C'est pas... Rouhani demande une chose, les autres peuvent être d'accord ou pas d'accord. Donc, ça laisse aussi amplement le temps aux Iraniens de négocier entre eux.
Clément Mazadekian ne veut pas aller plus en avant dans cette hypothèse. Le profil de ce membre du régime de Damas qui serait Téhéran compatible, vous avez une idée, vous, Clément?
Non, mais je pense que l'idée...
Non, vous ne voulez pas non plus.
Non, c'est pas ça, c'est que personne ne le sait, donc il faut quand même... on peut pas répondre à des questions auxquelles on n'a pas les informations. Donc je pense que ce qu'on sait, c'est que les Iraniens veulent préserver les institutions de l'État syrien. Mm-hmm. Donc là, comme la Russie, ils ont une approche réaliste de cette question. Ils sont pas pour ce qu'on appelle ici en Occident le changement de régime. Après, c'est vrai que est-ce que sur le plan de la légitimité, il y a ce problème qui se pose, et je pense qu'en Iran, le président Rouhani en est tout à fait conscient, mais il y a d'autres groupes, comme le conseiller diplomatique du guide, par exemple, Monsieur Velayat, qui lui est issu des années 80 où il était ministre des Affaires étrangères, et il se rappelle que le seul État arabe qui a soutenu l'Iran pendant la guerre Iran-Irak, c'était la Syrie. Donc il y a une certaine fidélité au sein du régime iranien pour ce régime, et c'est compréhensible compte tenu de l'histoire des relations entre les deux pays. Ensuite, ce qu'il faut ajouter, c'est que l'Iran n'est pas en Syrie pour la Syrie. L'Iran est d'abord en Syrie, notamment les durs, pour être un acteur dans le conflit israélo-palestinien. Donc c'est le corridor stratégique qui permet d'accéder au Hezbollah libanais et de se présenter comme le héros des musulmans dans la lutte contre l'État israélien. Donc là, je pense que la priorité pour l'Iran dans la lutte contre Daesh, c'est en Irak. C'est à la frontière irano-irakienne, parce qu'il y a une population sunnite, qui est notamment kurde d'ailleurs, qui peut se radicaliser. Et il y a des combattants iraniens qui sont partis se battre dans Daesh. Donc pour l'Iran, il y a vraiment ce risque, je dirais, d'une contagion du problème irakien à ses frontières. Donc l'idée pour l'Iran, c'est vraiment de projeter sa puissance régionale vers le conflit israélo-palestinien, qui est le grand changement, qui a été initié par la République islamique par rapport au régime du Shah, qui lui avait pour priorité l'océan Indien. Donc je ne pense pas que l'Iran soit prêt à revenir sur ce bouleversement stratégique qui est né de la révolution.
Alors, on va essayer d'avancer un petit peu dans les thèmes. Azadekian, on va parler tout à l'heure des questions économiques, mais un mot quand même sur les libertés civiles. La première question, est-ce qu'on peut attendre des évolutions en termes de liberté civile après ce scrutin? Et puis le paradoxe que je voudrais comprendre, c'est que ces libertés civiles, libertés publiques, ça a été un des grands thèmes sur lesquels l'électorat de Rouhani attendait beaucoup. D'ailleurs, durant sa campagne, il avait beaucoup mis l'accent là-dessus. Et finalement, je ne sais pas s'il a apporté tant de satisfaction que ça. Regardons par exemple, il y a eu peu de libération sur le mouvement de 2009. Alors pourquoi est-ce que les électeurs lui ont quand même apporté son soutien? Alors que précisément sur cette question des libertés civiles, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées.
parce que effectivement les Iraniens, vous savez, les électeurs iraniens savent très bien que la priorité principale de Rouhani était l'accord sur le nucléaire. Ça lui a pris vraiment plus de 2 ans et demi de son mandat. Ça a été fait. Le Parlement a été obligé de l'approuver malgré l'opposition des ultras. L'autre priorité de Rouhani est l'économie. Le problème économique du pays, la crise économique, le chômage massif, en général massif des jeunes, en particulier plus de 50% des jeunes dont beaucoup sont diplômés se trouvent au chômage actuellement puisqu'il n'y a pas eu de création d'emplois pendant 8 années de Ahmadinejad. Seuls 14 000 emplois ont été créés par an. Or, l'Iran a besoin de 350 000 emplois par an. La priorité non seulement de Rouhani mais de la population iranienne, et j'en sais quelque chose, j'ai fait énormément d'enquêtes dans le pays, c'est vraiment le problème de chômage, puisqu'il y a énormément de problèmes sociaux qui sont associés au chômage, en particulier des jeunes. Ils ne peuvent pas fonder une famille,
les questions économiques sont venues au premier plan devant la question des libertés.
Non, mais c'est la raison pour laquelle, à mon avis, le mouvement vert a échoué quelque part, c'est-à-dire n'a pas réussi à intégrer la majorité de la population, c'est que ces demandes étaient surtout pour des demandes pour la liberté collective et individuelle, etc. Je ne dis pas que ces demandes n'existent pas, ça existe,
oui,
mais au sein d'une certaine, disons, classe sociale, certaines couches de la population, mais la demande pour amélioration de la condition économique, c'est une demande beaucoup, beaucoup plus répandue.
Pour en venir justement à la question des libertés. Donc, dans le Parlement sortant, il y avait 8 femmes. Là, on dit qu'il pourrait y en avoir une vingtaine.
Il y en avait 9.
Oui. Voilà. Et il y a, par exemple, une des candidates, alors je ne sais même pas si elle a été élue, une certaine Parvaneh Salachouri.
La sociologue.
Oui. Voilà, qui disait il faut que les femmes soient libres ou non de porter
le
voile.
Après, elle est revenue sur son...
Est-ce que cette problématique est en train de monter?
Non, mais justement, il y a aussi ça. Vous voyez, il y a, par exemple, des femmes, en particulier des jeunes femmes à Téhéran, ont même des actes de d'ôter leur voile, celles qui conduisent ôtent leur voile une fois dans leur voiture, mais tout ça, c'est à Téhéran. Je ne dis pas que ces revendications n'existent pas. D'ailleurs, la liberté des femmes de porter les vêtements qu'elles souhaitent, se voiler ou se dévoiler, font partie des revendications pour la démocratie. C'est comme ça qu'il faut les voir. C'est pas seulement le voile, ça fait partie des revendications démocratiques. Mais ce que je dis, c'est que si vous êtes président et que vous voulez prioriser, voilà, ça, c'est pas une priorité. Ce qui ne veut pas dire que le Parlement, qui est en train d'être réuni, n'aura pas un rôle prépondérant à jouer en ce qui concerne le renforcement des libertés individuelles et collectives.
Clément Terme, je pose la question brutalement. Quels sont les grands défis, les grands enjeux économiques sur lesquels Rouhani va devoir faire ses preuves dorénavant? On a la fin du mandat, c'est bientôt, c'est 2017.
Lui, son projet principal, c'est faire émerger un secteur privé. Donc on le voit, il pense que c'est normal d'ailleurs dans un contexte où les prix du pétrole sont bas, l'Iran c'est un état rentier, face à une baisse des prix du pétrole qui semble durable, il y a un intérêt de toute façon sur le plan strictement économique à faciliter l'émergence d'un secteur privé.
Il va pouvoir très vite augmenter les volumes de production là, grâce à la levée des sanctions.
Oui, mais en ayant l'idée, il y a déjà eu 400 000 barils jour supplémentaires, donc ça va stabiliser les prix vers le bas.
1 250 000, on est loin du compte, on est loin des 4 millions, et l'Iran ne pourra pas, dans l'état actuel des choses, alors que les autres membres de l'OPEP ont tenté, excuse-moi de t'avoir interrompu, mais ont tenté de limiter la production du pétrole, continuer à augmenter sa production.
Voilà. En fait, il y a eu une augmentation de 400 000 barils jour, depuis le dernier mois, au cours du dernier mois. Donc, mais les exportations étaient tombées à 1 million de barils jour, par rapport à 2 millions à l'époque d'Ahmadinejad, si vous voulez, avant l'embargo européen. C'est l'embargo européen qui a précipité à la chute en 2012 les exportations de pétrole iranien. Mais ça, c'est un premier point. C'est pas, si vous voulez, ça va permettre une relance de l'économie. Il y a un risque d'hyperinflation s'il y a une réinjection massive de capitaux. Donc le président Rouhani, lui, son agenda, c'est une réforme structurelle. C'est de faire évoluer l'économie iranienne qui est à 80% étatisée vers plus de secteurs privés. C'est ce qu'on appelle le secteur semi-privé en Iran. Mais il faut pas se tromper. Hein, les privatisations en Iran, c'est au sein du sérail, c'est au sein... Il faut avoir des relais au sein du système politique. Mais au-delà de ça, je pense que là où il va pouvoir produire des résultats. C'est surtout sur le secteur de l'aviation qui était sinistré. Par exemple, on a vu le contrat massif avec Airbus qui était critiqué par le Parlement précédent. Donc là, le nouveau Parlement sera plus favorable parce que depuis 2000, là j'ai quelques chiffres, il y a eu 37 écrasements d'avions qui ont fait 900 morts en Iran. L'Iran a besoin de 500 avions. L'Iran a des avions qui ont plus de 50 ans. Donc ça, c'était, si vous voulez, le côté criminel des sanctions. Parce que c'est à cause des sanctions américaines après la prise d'otage de l'ambassade, hein, donc ça date. Hein, c'est pas du tout lié au nucléaire.
Oui, donc ce que vous dites, c'est que de ce point de vue-là, le scrutin là va avoir un effet sur les contrats possibles.
C'est-à-dire qu'ils seront moins critiqués en interne, parce que en Iran, les ultra-conservateurs, les partisans de ce qu'on appelle l'économie de résistance, dénoncent ce genre de contrats comme les traités inégaux, si vous voulez, les capitulations du 19e siècle. Donc là, il y a un rappel à l'histoire, aux ingérences étrangères en permanence, et l'accusation de signer, pactiser avec l'ennemi et de faciliter les intérêts étrangers. Donc là, le défi du président, c'est de montrer que ces coopérations économiques avec les entreprises européennes sont favorables et vont bénéficier à la population iranienne et ne sont pas au bénéfice des seuls étrangers qui vont investir en Iran. C'est ça son grand défi. Et le groupe de modérés, ce qu'on appelle les pragmatiques...
Il va quand même falloir contrôler un tout petit peu la pénétration justement des entreprises étrangères sur le marché iranien quand même,
oui,
si on veut pas trop.
C'est le concept de co-entreprise, le local content, on appelle dans le milieu des affaires. Le local content, c'est l'obligation pour l'entreprise qui investit en Iran de créer des emplois au niveau local. Ouais. Et là, les Iraniens insistent beaucoup là-dessus, le transfert de technologie et la formation. Donc là, on va voir aussi que l'Iran va être demandeur des meilleures technologies. C'est pour ça que les entreprises européennes voient le marché iranien vraiment très favorablement. Parce que par rapport aux entreprises chinoises qui ont envahi le marché à l'époque d'Ahmadinejad, et c'est là l'argument des modérés, c'est de dire qu'il faut sortir de la dépendance vis-à-vis de la Chine en rééquilibrant les relations économiques vers l'Occident. Parce que jusqu'en 2005...
C'est bon pour l'Union européenne, ça ?
Oui, jusqu'en 2005, l'Union européenne était le premier partenaire commercial de l'Iran. Ce n'est qu'en 2005 que la Chine a pris la première place. Et la croissance, si vous voulez, de la part de la Chine dans le commerce international de l'Iran existe dans tous les pays émergents. Mais dans le cas de l'Iran, elle a été accélérée par les sanctions.
Azadekian, vous vouliez ajouter quelque chose sur l'économie ?
Oui, l'économie, la création d'emplois, c'est le but de président Rouhani, pas seulement la privatisation, mais c'est la raison pour laquelle il invite des sociétés européennes à venir investir en Iran afin de créer l'emploi et pas seulement exporter leurs produits, tel est le cas justement des Chinois par exemple. Ça, l'Iran n'en veut pas. D'une part, d'autre part, je pense que finalement, il ne faut pas oublier que ces sanctions ont eu aussi un impact, à mon sens, positif sur la production agricole en Iran. L'Iran était vraiment très dépendant du blé et d'autres produits agricoles qu'il exportait massivement. Maintenant, on voit que l'Iran devient autonome en ce qui concerne, par exemple, la production de blé, puisqu'il n'y a pas assez d'argent non plus, assez de revenus pour faire ces importations. Donc finalement, quelque part, le gouvernement de Rouhani, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, a beaucoup aussi aidé, a beaucoup investi dans le secteur rural, effectivement, pour que les Iraniens puissent eux-mêmes produire les besoins alimentaires. Je pense que cette indépendance dont on parle, c'est pas que les ultras qui en parlent, c'est aussi les Iraniens. Mais il y a un grand mais, c'est que afin que les investisseurs européens ou d'autres puissent investir en Iran, il faut que les gardiens de la révolution et de tout un tas d'autres fondations qui ont leur main mise sur une bonne partie de l'économie iranienne soient d'accord. Sinon, eh bien, vous voulez investir dans quoi ? Dans tout ce que vous voulez investir en Iran, il y a toujours la main mise des fondations. Donc là, ça demande une négociation. Et pour le moment, ce que je vois en Iran, c'est que les gardiens ne sont pas absolument, veulent continuer à avoir le gros part, la grosse part du gâteau.
Clément Terme,
non, juste pour compléter ce que dit Azadeh, le problème aussi qui va se poser, notamment dans le secteur agroalimentaire, c'est la crise environnementale, la surutilisation de l'eau pour l'irrigation, pour l'autosuffisance alimentaire qui est vraiment, je pense, une cause perdue en Iran parce qu'elle entraîne une surexploitation des réserves en eau et on va vers une catastrophe écologique. Non. Tous les rapports montrent sur l'environnement en Iran que la construction des barrages, la multiplication de l'utilisation de l'eau vraiment va poser un grand défi pour le président Rouhani. Et d'ailleurs, il en a pris conscience parce qu'il a nommé une vice-présidente, Massoumeh Ebtekar, pour s'occuper. Elle était d'ailleurs à la COP 21 à Paris.
Je l'ai vu, on l'a croisée.
Voilà. Alors après, l'aspect positif du retour...
On l'a même interviewé. Voilà. Vous écoutez l'émission. Voilà.
Donc l'aspect positif du retour, pour être équilibré, des entreprises occidentales, c'est qu'il y aura peut-être une montée en gamme, par exemple, de la production dans l'automobile. Donc il y aura des moteurs qui respecteront des normes. Pareil pour la production d'essence, le secteur pétrochimique et l'exploitation l'exploitation des ressources pétrolières qui polluent extrêmement autour des champs pétroliers.
Azadeh, en tout dernier mot, au lendemain du premier tour, 14 femmes ont été élues pour siéger au Parlement. Elles pourraient même être 20 à l'issue du second tour. C'est un tournant historique. Alors, on est peut-être loin de la parité prônée tout à l'heure par les femmes kurdes dont on parlait tout à l'heure. Mais c'est un changement important. Surtout quand on regarde les profils, justement.
Écoutez, c'est un changement très important. Et puis, la parité est aussi prônée par les iraniennes. Seulement, les causes des inégalités hommes-femmes sont des causes concrètes et pas seulement parce que les hommes sont méchants. Les hommes ne sont pas méchants. Il y a des causes concrètes et donc il faut se battre contre ces causes concrètes, y compris l'économie néolibérale. Mais c'est une très très bonne chose d'avoir des femmes en particulier réformistes au Parlement, puisque d'ores et déjà, elles veulent essayer de changer des lois discriminatoires.
Merci beaucoup à toutes et à tous. Mylène Soloy, dont je rappelle le titre du documentaire, ça sera Kurdistan, la guerre des filles. C'est une diffusion pour mardi prochain, mardi 8 mars. Merci beaucoup à Azadeh Kian et à vous, Clément Terme. Je rappelle d'ailleurs que vous avez participé l'un et l'autre à ce numéro spécial Iran, le retour dans Questions internationales du début de l'année, janvier-février. Et puis merci à nos partenaires, bien sûr, de Libération, Marc Semo en l'occurrence. Merci à Myriam Guillot qui a mis en onde cette émission et à Alexandre Dang qui l'a réalisée.